Bien, si vous le voulez bien, nous allons commencer parce que, bonjour à tous, parce que nous avons pas mal de choses à notre menu aujourd'hui. D'abord, deux chapitres, les chapitres 17 et 18, que peut-être vous avez déjà pris le temps de lire, mais vous les avez sur vos tables. Et puis, je me souvenais vaguement la dernière fois qu'on avait terminé un peu rapidement et que je vous avais annoncé qu'on allait reprendre ça en début de séance suivante. Alors, je me suis renseigné autour de moi, j'ai l'impression qu'il s'agissait du commentaire de cette image-là. Si jamais vous l'avez, vous pouvez toujours la ressortir. Sinon, je la tiendrai là, mais vous l'avez sans doute en souvenir, parce que le propre des images, c'est que ça imprime, pour le dire comme ça.
Je vais la commenter.
Je peux vous en prêter une si vous voulez.
Ah bon, bah donnez-nous.
Mais je ne vais pas y rester trop longtemps. Mais je l'ai distribué la dernière fois. Hein, et je n'en ai pas d'autres à vous donner. Mais peu importe.
Ah bon, d'accord.
Lisez à plusieurs. Voilà.
D'accord.
Donc vous voyez sur cette image, qui est c'est pas une miniature, parce que c'est quand même un grand format, qui se trouve être à la Bibliothèque nationale de France. C'est le document numéro 3 dans les documents néerlandais. C'est donc une peinture flamande, mais qui illustre un livre dans lequel chacun des chapitres de l'Apocalypse est représenté. Et ici, c'est le chapitre 13, que nous avons étudié la dernière fois. Et vous voyez que je ne sais plus jusqu'où on avait été, parce que j'ai l'impression qu'on avait quand même dit quelques petits mots sur cette image. Mais si vous l'avez sous les yeux, vous voyez que on peut la lire selon trois registres. Un registre haut, un registre médian et un registre bas. Et qu'est-ce qu'on voit dans le registre du haut, grosso modo dans le tiers haut? Est-ce que chacun en a une plus ou moins sous les yeux ou à en souvenir? Qu'est-ce que vous voyez sous cette... Oui, alors, il y a la transmission du sceptre entre qui et qui? Entre le grand dragon rouge, le grand dragon rouge qui le donne à la bête qui a 7 têtes et 10 diadèmes. Ouais. Donc vous voyez que ça, c'est le début de notre chapitre 13 où il y a une transmission de pouvoir entre le dragon qui a été vaincu au ciel dans le chapitre 12 et qui maintenant qu'il est blessé sur terre va continuer son œuvre maléfique, mais ne va pas la continuer directement, il va la continuer par des sbires de deux bêtes dont la première est là. Toujours dans le premier registre, qu'est-ce que vous voyez comme personnage? Alors vous voyez un Christ où, madame?
En haut.
En haut. Vous avez raison, c'est à la fois le Christ et Dieu dans le médaillon du haut. Hein, puisque l'Apocalypse est un livre qui a ce qu'on appelle une théologie, une christologie haute, à savoir que Christ n'est pas homme, il est quasiment Dieu et l'égal de Dieu, à tel point que vous savez, c'est l'agneau qui siège sur le trône. Or d'habitude, c'est le Dieu Tout-Puissant qui siège sur le trône. Donc là, on est bien dans la théologie. Donc tout ça se passe sous le regard de Dieu.
Et à gauche, c'est Saint Jean.
Et à gauche, vous avez raison, c'est Jean. C'est le visionnaire de Patmos, puisqu'on lui donne des choses à voir. Voilà ce qui lui est donné à voir. Donc le premier registre du haut représente finalement la transmission du pouvoir du grand dragon rouge, dont on a vu qu'il faisait un peu voiture-balai pour tout ce qui était le mal, hein. Le diable, le serpent d'autrefois, celui qui est l'accusateur de nos frères, le tentateur, hein, on ramasse tout, et il ne va pas agir sur terre directement, mais par des sbires. Le premier sbire, c'est la bête à 7 têtes et 10 cornes, et on voit dans le registre du milieu comment est-ce qu'elle agit, cette bête. Donc le registre du milieu, C'est la même bête qui est représentée.
Elle est appuyée par les musulmans.
Alors elle est appuyée par une troupe armée qui a quelque chose à voir avec des Ottomans, oui, parce qu'il y a un sabre tordu. Elle agit de, vous voyez, dans le registre médian, elle agit de deux façons. À gauche, elle agit comment ? Elle agit par la séduction, puisque vous voyez que qui est-ce qui est prosterné devant elle ? Les évêques, les rois, ouais. Peut-être un cardinal. Donc, elle a réussi, en tout cas, à séduire ou à impressionner les puissants de la terre. Et puis, il y a quand même un reliquat de gens qui ne se sont pas laissés impressionner.
Les Dominicains. Avec l'Inquisition, peut-être.
Alors, exactement. Alors, eux, on avait dit que le chapitre 13 était une analyse politique. Comme dans tout pouvoir totalitaire ou dictatorial, la coercition violente, armée, sert à réduire ceux qui ne se sont pas soumis. Et puis on a dans le troisième registre, le registre du bas, la deuxième bête dont nous parle Apocalypse 13. Et vous voyez, c'est celle qui est décrite dans Apocalypse 13, vous vous souvenez, elle parle comme un agneau, non, elle ressemble à un agneau, mais sa voix est comme celle d'un dragon. Hein ? Elle est dans la dissimulation, vous voyez bien que c'est... et on nous dit, elle fait que la population adore l'image de la première bête. Vous voyez dans la petite niche, vous voyez la population qui est amenée à adorer l'image de la première bête. Et puis de nouveau, cette autre bête, cette seconde bête, qu'est-ce qu'elle fait en bas à droite ?
Elle séduit.
Elle séduit et elle place une marque sur le front, comme le dit Apocalypse 13, des puissants. Hein ? Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les personnages qui sont là, alors il semblerait que ce soit des moines franciscains qui sont vus sans doute en mauvaise part, puisque participant à une inquisition, sont présentés sous forme de ceux qui ont la bure là, avec une capuche. Mais au premier plan, en bas à droite, on aurait affaire à l'empereur Sigismond Ier. Il est, paraît-il, tout à fait reconnaissable. Et sans doute, notre documentation serait-elle meilleure qu'on reconnaîtrait nommément tel ou tel évêque ou tel pape. Alors si je vous ai... donc Sigismond Ier, c'est celui qui est l'empereur du Concile de Trente, celui au cours duquel ou à l'issue duquel Jean Hus a été brûlé. Hein ? C'est le Concile de Constance, excuse-moi. Le Concile de Constance qui a mis fin au grand schisme d'Occident. Si je vous ai mis cette image-là, c'est d'abord parce qu'elle est belle, parce qu'elle nous aide à comprendre une lecture médiévale de Apocalypse 13, mais elle vous montre aussi qu'une lecture politique de Apocalypse 13 et de l'Apocalypse en général n'est pas une lubie moderne, mais que depuis très longtemps, les lecteurs de l'Apocalypse, y compris au Moyen-Âge, ont compris que les enjeux de l'Apocalypse étaient d'ordre politique, à tel point qu'ils vont l'actualiser, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser l'Apocalypse pour décrypter le jeu des puissances à leur époque. Exactement comme Jean de Patmos a utilisé ses visions pour décrypter le fonctionnement de l'Empire romain. Hein ? C'est-à-dire qu'on a affaire là à une sorte d'affiche politique, de tract politique, hein, qui dénonce l'empereur Sigismond Ier comme étant soumis à la bête et qui dénonce les franciscains comme étant des agents de la bête. Hein, et qui montre sans doute les dominicains comme étant le camp des saints, ceux qui sont vaincus par la bête dans Apocalypse 13. Voilà, c'était juste pour vous montrer que les lectures politiques de l'Apocalypse ne sont pas choses modernes, mais existent depuis le début. Je m'en tiens là parce qu'on a un gros programme. Vous avez trouvé les feuilles devant vous. La plupart d'entre vous avaient des feuilles un peu grisées comme ça, avec des images grisées. Et puis si vous regardez à côté, vous avez peut-être un voisin ou une voisine qui a des images plus en couleur. Donc ça crée de la jalousie, j'espère que ça ne créera pas des conflits. Mais j'ai juste eu un problème d'ancrage lors du tirage. Mais ce n'est pas indispensable à la compréhension de ces images. Avec Apocalypse 17-18, nous avons de nouveau un diptyque et nous allons faire un petit peu comme nous avons fait avec Apocalypse 12-13. On va lire assez rapidement sans s'y arrêter trop Apocalypse 17 et j'aimerais qu'on s'arrête plus longuement sur Apocalypse 18. Puis peut-être qu'on débordera comme la dernière fois, mais on verra. Donc je vous invite sans tarder à lire Apocalypse 17. Et de nouveau, il y a 1, 2, 3, 4 paragraphes très très inégaux. S'il pouvait y avoir 4 lecteurs différents, un par paragraphe, qui veut bien commencer. Merci. Et vous continuerez, d'accord, c'est bon.
Alors, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coups vint parler avec moi. Il me dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux.
C'est avec elle ?
Non. Il lit un paragraphe. Non, ça j'aime.
C'est avec elle que les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre sont ivres du vin de sa prostitution.
Il me transporta par l'esprit dans un désert. Je vis alors une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement.
Quelqu'un enchaîne ? Allez-y.
L'ange me dit, pourquoi t'étonner ? Moi, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de la vie depuis la fondation du monde, seront étonnés à la vue de la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'intervient l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. L'un est, l'autre n'est pas encore venu. Quand il viendra, il doit demeurer peu. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est aussi l'un des 7. Elle s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme roi pendant une seule heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Vaincront également ceux qui avec lui sont appelés choisis et fidèles.
Allez-y.
Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Quant aux 10 cornes que tu as vues et à la bête, elles se mettront à détester la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la brûleront complètement par le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.
Merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter là, pour l'instant. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous frappent, qui vous étonnent?
Je me demande pourquoi c'est Babylone qui est désignée, alors que c'est Rome qui est en général l'objet du problème. Babylone, c'est du passé maintenant pour...
Oui, c'est juste. C'est juste.
En plus, Babylone, c'est tout de même de Babylone que sont revenus les exilés. Ça n'a pas été une...
Oui.
Enfin, ça, c'était chez les Juifs, c'était pas chez les chrétiens.
Oui. Alors, il se trouve que Babylone est devenue, dans la littérature tardive juive des siècles qui ont précédé notre ère et du début de notre ère, est devenue un peu l'image du mal. C'est un petit peu comme si on a aujourd'hui quelqu'un qui dirait, qui traiterait quelqu'un de nazi. Dire mais non, c'est pas un nazi puisqu'il est responsable de tel ou tel mouvement politique ou actuel. C'est l'histoire passée. Mais si vous voulez, Babylone est devenue dans la littérature apocalyptique juive et puis maintenant ici chrétienne un peu l'image du mal absolu. C'est la même chose que vous avez qui se passe, on est dans la 500e année de la Réforme. Qu'est-ce que fait Luther en 1520? Il écrit trois petits traités, dont un s'appelle « De la captivité babylonienne de l'Église ». On pourrait faire le même reproche à Luther en disant « Mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de Babylone ? Babylone, c'est fini depuis longtemps, c'est de Rome qui parle. » Ben, c'est devenu une habitude. C'est presque un nom de code pour dire la méchante ville, comme aujourd'hui on dirait pour dire quelqu'un qui a de méchantes pensées politiques, on va dire il a une pensée nazie alors qu'il n'a pas forcément exactement une pensée nazie. Là, ça va être pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, Babylone est utilisée comme un modèle alors qu'à l'époque, Babylone n'existe plus. Enfin, c'est une ruine. Vous voyez d'autres choses? Alors, on a évidemment au centre de cette image, cette dame, hein, cette grande prostituée. Vous voyez qu'elle est nommée, je crois que le mot prostituée arrive 7 fois dans le...
Prostituée, prostitution, c'est plus que ça, il y en a un.
Ouais.
2, 3 fois, dans le premier paragraphe, il y a 3 fois déjà.
Ouais, hein.
4, 5, dans les deux.
Ouais. Elle est 7 fois en tant que substantif, en tout cas. Donc, visiblement, c'est le personnage central de notre passage. Qu'est-ce qu'on apprend sur elle ? On va prendre, à chaque fois qu'on voit prostituer le verbe ou bien le substantif, on va voir quels sont les qualificatifs ou les choses qui lui sont prêtées. Est-ce qu'on peut faire ça dans l'ordre ? Qu'est-ce qu'on apprend sur elle ?
Elle est assise sur de grandes eaux.
Alors, vous allez trop vite. Pardon ?
Elle est grande,
voilà. Ce n'est pas une petite prostituée de ruelle, c'est une grande prostituée. Ça veut dire, mais en tout cas, elle a une importance. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend encore ? Oui, alors, elle est assise sur de grandes eaux. Ça peut faire penser à quoi, ça ? Bon, ça pourrait être pris en part géographique, hein, de grandes eaux.
Sur le Tigre et l'Euphrate.
Alors, ça peut être sur le Tigre et l'Euphrate. Un endroit, en tout cas, où il y a beaucoup d'eau. Alors, ça peut être le Tigre et l'Euphrate. Ça pourrait être l'océan, mais alors là, l'océan, il est lointain. Ça pourrait être la Méditerranée, la Grande Mer. Pour l'instant, c'est ouvert. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on nous a dit qu'elle était assise sur de grandes eaux, donc c'est une indication. Qu'est-ce qu'on sait encore ?
Les rois de la terre se sont
prostitués. Ça veut dire quoi ?
Parce qu'ils ont été soumis à son pouvoir, à son influence.
Ils ont eu commerce avec elle. Et vous voyez pourquoi je dis commerce ? Parce que c'est bien pratique.
Pour la prostituée,
mais aussi pour le chapitre 18, qui parlera du vrai commerce. D'ailleurs, c'est intéressant de se rendre compte que... dans un lien avec une prostituée, la langue française, en tout cas, peut utiliser le verbe commercer ou avoir commerce avec. Ouais. Donc en tout cas, elle est grande, elle a un rapport avec des grandes eaux qui sont encore à identifier. On sait qu'elle a pas mal de clients de haut rang, puisque ce sont les rois de la terre, c'est pas n'importe qui, c'est pas une prostituée de bas fond. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'on apprend encore d'autre ?
En fait,
oui.
Dans verset 2, ce sont les rois qui se sont prostitués.
Ah, c'est intéressant ça, oui.
Mais non pas l'inverse.
Oui, c'est pas elle qui s'est
prostituée. C'est pas la prostituée qui s'est vendue, ce sont les rois qui se sont prostitués.
Oui, donc on a l'impression que c'est une prostituée qui a le pouvoir sur les rois. Oui. Ouais. Ils n'ont pas les moyens de l'acheter. C'est elle qui se les paye. Oui. C'est tout à fait intéressant de noter cette bizarrerie, ouais. Et elle est signifiante, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on apprend encore? On va la suivre.
En fait, tout le monde est ivre de sa présence.
Oui.
Donc tout le monde l'adore, en fait.
Oui, tout le monde a l'air assez content de ses prestations, hein. Ouais. Ouais. Et vous voyez que ça se démocratise, hein, puisque c'est les habitants de la terre, c'est plus seulement les rois, ouais. Qu'est-ce qu'on apprend encore sur cette dame? Elle est somptueusement habillée. Oui, elle n'est pas en guenille. C'est pas une prostituée de Manille, oui, non?
Elle est assise sur une bête écarlate.
Elle est assise sur une bête écarlate, c'est la même que celle qu'on a vue dans notre image. Donc, elle a aussi à voir avec les puissances démoniaques qui guident le monde. Oui. Alors, vous voyez que la couleur rouge lui est quand même bien attachée à cette dame. Elle est assise sur une bête écarlate, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or.
De pierres précieuses.
Pardon ?
De pierres précieuses et de perles.
De pierres précieuses et de perles. Le rouge, ça renvoie à quoi ?
À l'empereur.
Pardon ?
À l'empereur.
Ouais, c'est en tout cas, dans la symbolique de l'époque, le rouge, c'est la couleur impériale romaine. Vous voyez qu'on commence à avoir un dossier convergent. On va quand même aller au bout, hein, mais on commence
à la voir venir.
Qu'est-ce qu'on apprend encore ?
Elle tient une coupe d'or.
Elle tient une coupe d'or.
Elle a rassemblé
des impuretés, des abominations. Vous vous souvenez que les abominations, c'était ce que proférait la première bête dans Apocalypse 13. Hein. Elle profère des blasphèmes et des abominations. Et on avait vu que cette bête avait été identifiée à Rome sous son aspect coercitif. Mmh. Oui. Quoi d'autre ?
Pourquoi est-ce que son nom est un mystère ?
À votre avis, pourquoi est-ce que son nom est un mystère ?
Ça masque quelque chose ou bien...
On ne sait pas d'où il vient.
Ouais.
Parce que ça désigne peut-être Babylone, mais autre chose.
Il y a deux points.
Ouais, c'est-à-dire qu'on vous dit, je vous dis que c'est Babylone, mais il y a là un mystère à décrypter.
Ça peut être
rond. C'est-à-dire que derrière le rhétoriquement de dire mais c'est un mystère, c'est intéressant parce que elle est le personnage central. On vous en dit plein de choses et puis on vous dit chut, son nom est un mystère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la nommer, mais on en sait plein de choses. Hein? Ça peut être aussi une invitation à percer le mystère à celui qui a un minimum d'intelligence, oui. Allez-y.
Il y a aussi une contradiction entre la coupe d'or, qui est quelque chose de très beau,
oui,
de cher, et qui est pleine d'abomination.
Oui. Oui, c'est-à-dire...
Si ça camouflait, la coupe d'or camouflait ce qu'elle contient.
Oui, c'est intéressant. Son luxe et sa richesse camoufle des tas de saletés, des tas de cochonneries. Hein? Ouais. C'est-à-dire qu'elle a une façade effectivement extrêmement reluisante, mais si on regarde un peu derrière, c'est pas très beau. Ouais. D'autant plus que qu'est-ce qu'il y a dans la coupe d'or ? Ouais, mais regardez juste après, elle est ivre du sang des saints.
Oui.
C'est-à-dire que visiblement, ce qu'il y a dans sa coupe d'or, c'est aussi le sang des saints. Donc, c'est ce qu'on apprend, c'est qu'elle est aussi en guerre contre les saints, c'est-à-dire en guerre contre les chrétiens. Elle n'est pas en guerre contre les chrétiens exceptionnels, elle est en guerre contre les chrétiens. Alors, elle est nommée Babylone la Grande, mais on sait que dans, dans l'apocalyptique juive de la fin, juste avant notre ère, c'est Babylone qui est désignée, c'est Rome qui est désignée comme Babylone. Donc ça nous donne encore une indication. Vous voyez qu'il y a plusieurs jeux aussi sur le rouge. Le rouge qui peut renvoyer à la pourpre impériale, qui peut envoyer au luxe. Parce que vous vous souvenez que la couleur rouge, elle est obtenue avec le murex, un coquillage rare. Donc pour pouvoir avoir du rouge sur soi, il fallait avoir de l'argent. C'était en même temps la couleur des prostituées. Ça, ça n'a pas bougé, c'est comme à Amsterdam. C'est aussi le sang des martyrs. Et c'est aussi le rouge du vin et de l'ivresse. Donc la couleur rouge, elle a un sens multiple, mais jamais un sens positif. C'est tout vers du négatif. Et puis vous voyez que on apprend encore quelque chose de cette dame au verset 9. Et là, on nous invite, on nous dit plus c'est un mystère. On nous dit maintenant c'est le moment de réfléchir, les amis. D'être intelligent. Elle est assise sur cette montagne. Urbis Septicolis. C'était le nom de Rome, la ville, on trouve ça chez Virgile, Martial, Cicéron. Rome, la ville aux sept collines. Mais on vous dit, on y reviendra, c'est aussi cette roi. Et puis, alors on va peut-être avoir une explication au verset 15 sur les eaux sur laquelle la prostituée est assise.
C'est la multitude.
C'est l'humanité.
Alors, est-ce que c'est l'humanité complète, toute l'humanité ?
Les peuples, les foules, les nations, les langues. C'est assez complet.
C'est en tout cas celles qui sont réunies dans l'Empire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tous les peuples, les nations, les langues qui sont réunies dans l'Empire romain, qui, comme par hasard, a pour point central la Grande Mer. L'Empire romain, il se construit autour de la Méditerranée, et en particulier par son commerce maritime, qui va de Alexandrie à Rome, ou de Alexandrie au port qui est en dessous de Naples, au-dessus de Naples.
Même en Espagne.
Et en Espagne aussi. Oui, sans doute aussi. Donc, on peut comprendre que ces grandes eaux représentent l'ensemble des peuples du bassin méditerranéen qui sont soumis à Rome. Et puis enfin, au cas où vous n'auriez encore pas compris, on a le verset 18. La dernière phrase. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a royauté sur les rois de la terre. Donc, on vous dit que c'est un mystère, mais enfin, je veux dire...
On nous aide à le dévoiler.
On nous aide vraiment de façon massive à le dévoiler. Il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Alors, on vous donne dans le passage central, les versets 7 à 14, on pourrait dire que Rome, c'est pour l'indication géographique et politique. On va vous donner une autre indication. Quand on dit au verset 10, ce sont aussi, verset 9-10, c'est cette montagne, d'accord ? Mais c'est aussi cette roi. Alors regardez comment c'est, on nous en parle. Visiblement, ça désigne quelque chose de très précis. Hein.
Mais les sept rois, il y a eu sept rois en Rome avant la République. Seulement là, ils disent qu'il y en a cinq qui sont tombés, l'un et l'autre n'est pas encore venu à la fin.
Ouais.
Ça désigne donc pas la royauté réelle, enfin ce qui était le, ouais, le régime politique de la royauté. Là, alors
ça dépend. Non. Parce que quand on dit roi, à l'époque, il y a pas de, ça pouvait aussi très bien désigner des empereurs.
Ah oui,
voilà. Alors, je vous ai mis une liste à droite. Je vous ai mis une clé à droite, parce que vous voyez que en même temps, quand on parle des cornes, au verset 10, la bête qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Elle est en même temps un huitième roi, mais elle est aussi l'un des sept. Ouh là là. Et là, ça commence, on commence à faire des nœuds. Mais visiblement, il sait de quoi il parle. Enfin, il veut nous amener à quelque chose de précis. Et puis après, il y a 10 rois en tout. Ah oui, c'est compliqué. Hein.
Oui, mais qui n'ont pas encore reçu le royaume.
Qui n'ont pas encore reçu le royaume, qui viendront peut-être encore après pour les pour au-delà. Alors, une des hypothèses, vous voyez, c'est que quand on fait la liste des empereurs romains, je l'avais déjà évoqué la dernière fois, avec ces trois de la succession de Néron, Galba, Othon et Vitellius, qui ont régné un an et demi, parce que la succession de Néron a été un peu chaotique, et qu'on sait que il y en a un que les chrétiens et les juifs ont dans le nez, c'est Néron, à cause de la persécution des chrétiens après l'incendie de Rome, en 62, dans les années 60. Et puis alors quand on sait que Domitien se prétend être le Néron Redivivus, c'est-à-dire Néron ressuscité, Néron revenu, il se prétend comme le successeur et même la réincarnation de Néron, on peut peut-être comprendre cette idée que le huitième, celui qui va venir, est un des sept. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que Domitien est le huitième, mais il est un des sept Néron. C'est une possibilité.
Et Jean écrit sous Domitien.
Et
il est victime de la persécution de Domitien.
Vous voyez bien que ça se goupille pas mal, en tout cas. Hein? On l'avait déjà vu une fois ou l'autre. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a affaire à un visionnaire qui essaie pas d'entraîner ses lecteurs dans un ésotérisme échevelé, mais qui essaie de dire les choses de façon extrêmement précise, mais pas directe. C'est ça qui rend la chose compliquée. Juste avant de finir avec ce chapitre, qui de nouveau fait diptyque avec le chapitre 18, essayons de voir quels sont les rapports que la prostituée a avec, d'une part, les saints et l'agneau, et d'autre part, avec les rois et les puissances qui ont déjà été mentionnées. Quel rapport est-ce que cette prostituée, a avec les saints ou avec...
Elle boit le sang des saints.
Elle boit le sang des saints.
Et il n'y a que l'agneau qui pourra la vaincre.
Exactement.
Elle séduit les puissants.
Oui. Alors, elle séduit les puissants, exactement comme l'image qu'on a vue du 14e, du 15e siècle, là. Verset 6, elle boit le sang des saints, ça veut dire qu'elle les tue, elle les persécute. Mais la bonne nouvelle, au verset 13-14, c'est qu'elle sera vaincue par l'agneau. Parce que en fait, le vrai Seigneur des Seigneurs et le vrai Roi des Rois, c'est pas celui qu'on pense, mais c'est l'agneau. C'est là la bonne nouvelle de l'Apocalypse. Même si en attendant, on en bave et que la prostituée s'enivre du sang des saints.
Moi, je comprends pas très bien le passage.
passage.
Quel verset?
Les habitants de la terre
sont ce dont on n'a pas été fait dans
voilà, n'ont pas été inscrits dans le livre de la vie depuis la fondation du monde seront étonnés à la vue de la bête.
Oui, ils sont dans la fascination. C'est-à-dire qu'on a la même chose qu'on avait dans Apocalypse 12-13, c'est que la majorité des habitants de la terre sont dans la fascination devant la puissance, la gloire, la richesse de la bête. Et seul un tout petit nombre est en capacité de résister à la bête, de ne pas se laisser séduire par elle. Alors là, c'est présenté comme des gens qui ont été choisis. Qu'est-ce que ça veut ? Comment vous recevez ça ?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire du grand livre ?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire du grand livre ?
Oui. Il semble qu'il dit que depuis les débuts, tu m'as inscrit dans ma destinée, etc.
Oui, c'est juste. Ouais, il y a aussi Paul qui dit qu'il avait été choisi depuis le ventre de sa mère. En général, on réagit à ça en disant mais c'est scandaleux parce que, vous voyez bien, c'est la prédestination. Voilà. Parce que nous sommes tout tranquilles, là, ici, aux quatre rues de l'oratoire. On n'a pas de problème. Puis on juge à la place de Dieu. Il faut bien voir que c'est adressé à des gens dont le sang est en train d'être bu par la grande prostituée. Et si leur sang est en train d'être bu par la grande prostituée, c'est qu'ils font partie de ceux qui résistent. Et on leur dit à eux, mais pas comme une vérité générale, on leur dit à eux, vous avez été choisis par Dieu depuis la fondation du monde pour faire partie du petit groupe des élus qui sont en capacité de résister à la bête, contrairement à l'immense masse des. Donc ce n'est pas une déclaration sur le jugement, etc. C'est une parole qui est adressée à ceux qui peuvent se savoir, qui savent qu'ils ont été choisis par Dieu. Et donc, pardon ? Exactement, ça donne sens à leur martyr. Le martyr n'est pas le fait du hasard, leur martyr est le fait qu'ils font. C'est-à-dire que ça valorise leur martyr. Ils sont ceux qui ont été choisis par Dieu, ce petit nombre, qui s'en prend plein la figure, mais qui a cette dignité de pouvoir résister à la bête.
C'est le sel de la terre.
Il est le sel de la terre, exactement. Hein? Alors évidemment, quand nous extrayons ça, puis que nous en faisons une vérité générale sur la prédestination ou pas, je crois qu'on se trompe. Parce que l'objet du visionnaire de Patmos, c'est pas de nous instruire sur les jugements éternels de Dieu, c'est de soutenir dans leur combat des gens qui sont au front.
Hein?
Oui.
Je suis interloqué par le verset 12.
Oui.
Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois.
Oui.
Qui n'ont pas encore reçu le royaume.
Oui.
Mais qui reçoivent le pouvoir.
Oui.
Comme des rois. Pendant une seule heure.
Oui.
Et la bête.
Oui, c'est intéressant. Vous nous amenez sur un terrain sur lequel je voulais aussi nous amener, à savoir les rapports que. Ces rois ont avec, alors appelons-la la bête, la femme, la prostituée, c'est la même, hein, c'est avec Rome. Là, on pourrait presque y voir les vassaux de Rome, qui n'ont de pouvoir que quand Rome leur reconnaît, mais qui leur dit, vous savez, c'est un pouvoir qui est fragile, parce que si vous tombez en disgrâce vis-à-vis de Rome, ça va, ça vient, hein. Parce que c'est les mêmes qui vont se venger à la fin. Hein? J'ai l'impression que là, on a peut-être un troisième sens des 10 rois, et plus seulement les empereurs de Rome, mais l'ensemble des vassaux qui sont en rapport avec Rome. Oui?
En 9, un peu juste au-dessus de 9, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle réparatra. À quoi correspond cette espèce de mouvement cyclique ?
Ouais. Vous avez plusieurs formules qui arrivent comme ça dans l'Apocalypse, qui est celui qui. est, qui était et qui sera.
C'est Dieu.
Ça, c'est Dieu. Voilà, exactement. Celui qui est, qui était et qui sera, c'est Dieu. Et puis, là, effectivement, ce qui est étonnant, c'est que on a une formule qui est presque la même. Elle était, elle n'est plus, elle reparaîtra. Alors, ça pourrait être appliqué à elle était, c'est Néron, elle n'est plus, c'est Néron, parce qu'il n'est plus, mais il réapparaîtra, c'est Domitien. Et on nous dit justement que c'est la huitième, hein, que c'est le huitième roi, lequel est aussi un des sept. Ben oui, Néron. Donc je pense que ça joue là-dessus, mais vous avez raison de signaler que ça a l'air cyclique, par opposition à Dieu ou l'agneau qui est défini comme celui qui est éternellement depuis la fondation du monde jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que à ce côté cyclique des empereurs, hein, de temps en temps il y en a un bon et puis le plus souvent il y en a des mauvais mais qui reviennent, hein, en face de ça il y a une sorte de socle stable de l'agneau qui est, qui était et qui sera, hein, alors que l'empereur il est pas, ou les mauvais empereurs, des fois il y en a des bons, des fois il y en a des mauvais. J'ai l'impression que ça pourrait dévaloriser un petit peu relativiser cette succession des empereurs. Peut-être. C'est une hypothèse. Hein. Quels sont les rapports qu'ont tous ces rois avec Rome ?
Ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête.
Ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Comment est-ce que les vassaux de Rome, que ce soit en Égypte, en Turquie, en Espagne, dans le nord de l'Afrique, comment est-ce qu'ils donnent leur puissance à la bête ?
Ils lui donnent à manger, Rome ne travaille pas, il n'y a pas de ravitaillement, ça vient tout d'Égypte, ça vient de tous les territoires conquis.
Vous avez tout à fait raison, vous avez entendu ce que disait monsieur ? Ça vient de tous les territoires conquis, ils donnent à manger à la bête et ils donnent de l'argent à la bête. C'est-à-dire que les historiens de l'Antiquité ont bien montré comment, en fait, le système romain, c'était un système de prédation et de pillage général qui faisait que toutes les richesses de l'Empire convergeaient vers Rome, qui pouvait déployer une richesse incroyable et une puissance incroyable sans rien produire, rien fabriquer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la bête, la grande prostituée, ne vit qu'en vampirisant ses conquêtes.
L'importance des victoires avec le défilé,
c'est exactement, d'où l'importance des butins, etc. Il s'agissait de montrer que tout ça nous appartient. En même temps, on sait historiquement que c'est ça qui a fait la chute de Rome quelques siècles plus tard. C'est-à-dire que les marges de l'Empire étaient tellement appauvries et ponctionnées que les différents envahisseurs venus d'Europe centrale ou d'Europe du Nord, ou plus tard, ça marchera pareil avec le développement de l'islam au 7e siècle, arrivera presque sur un désert où il n'y avait plus de. C'était plus constitué. Tellement il y avait eu cette aspiration. Hein, donc effectivement. Le visionnaire analyse le fait que Rome la grande prostituée ne tient pas sa force d'elle-même, mais elle la tient
de ce qu'elle vole.
Mais en même temps, c'est elle qui accrédite ses vassaux, c'est-à-dire qu'il les nomme et les protège. Vous voyez bien comment le système impérial est décrit.
Les vassaux en profitent autant que...
Les vassaux en profitent, enfin, en tout cas quand on est un roi. Après, le peuple, les peuples vassaux, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que quand on est un roi qui est dans les papiers de Rome, c'est pas mal. Même si on contribue à pomper notre peuple pour alimenter Rome. Le visionnaire décrit ce rapport comme un rapport de prostitution. Inversé, comme vous l'avez très justement signalé. Je ne sais pas si on a déjà évoqué ça. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas d'adultère? S'il veut rentrer dans une métaphore de type sexuel, pourquoi est-ce qu'il parle de prostitution? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de...
Parce que c'est payant. Parce que c'est...
Dans l'adultère, il n'y a pas d'argent. Puis dans l'adultère, il y a de l'amour. Éventuellement.
Tandis que dans la prostitution, il n'y a rien de tout ça.
Il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que si les vassaux sont acoquinés, font commerce avec Rome, c'est que on est dans un... Ce n'est pas un rapport d'amour. C'est un rapport de... qu'on espère gagnant-gagnant. Enfin, en tout cas, c'est un rapport d'argent. Hein, ouais. Du coup, on le voit bien à la fin, puisqu'on a cette prophétie au verset 15, au 16 plutôt à 17, le visionnaire prophétise que à la fin des fins, cette prostituée qui était assise sur tous les peuples, etc., sera déchirée, dépouillée, dévorée par ses vassaux. Alors, il faudra attendre quelques siècles. Hein. Ça ne se passera pas tout de suite. Mais, effectivement, dans sa vision, il a le fait que ça ne peut pas durer comme ça éternellement. Alors ça, c'est comme ça qu'il nous le dit en semi-crypté. Maintenant, on va voir le décodage en clair. Vous savez, dans l'Apocalypse, je vous l'avais déjà signalé, il y a beaucoup de passages qui ont l'air cryptés, et c'est souvent à ceux-ci qu'on s'arrête. Puis malheureusement, on ne va pas regarder les passages qui sont en clair. Alors le chapitre 18 que nous allons lire maintenant est un chapitre absolument en clair, presque intégralement en clair, qui décrit ce qui a été décrit de façon imagée, symbolique, dans le chapitre 17. Dans ce chapitre, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraphes, tout à fait inégaux. Si on pouvait changer de lecteur à... Ah oui, non, excusez-moi, j'ai oublié quand même. On revient à la page 17, juste pour vous commenter deux mots sur les... Vous avez la statue qui est en haut, qui est normalement, si vous avez peut-être des voisins qui l'ont avec la bonne couleur, qui est une statue de porphyre rouge. Et c'est la déesse Roma, un Dea Roma, représenté en Minerve, là. Et vous voyez que c'est une statue de l'époque. Sa robe est en porphyre rouge. Et qu'est-ce qu'elle tient dans la main à part une lance? C'est le globe. C'est qu'elle tient le monde... Elle tient le monde dans sa main. Hein. Donc, vraiment, l'image qu'a peut-être en tête le visionnaire de Patmos, c'est cette déesse Rome en habit rouge qui tient le monde dans sa main. Hein. Oui.
Je pense qu'il est bon de savoir que à Rome, Jupiter, Junon et Minerve formaient une trilogie qui était adorée dans le même temple dans tout l'Empire.
Absolument, oui.
Sauf en deux endroits d'ailleurs, en Bethléem en Tunisie, puis en Espagne, je ne me rappelle plus où. Ouais. Bon, donc c'était donc déjà un symbole très fort que l'un de ces trois membres de la trilogie apparaisse comme représentant la République, enfin l'Empire.
Oui, l'Empire, Minerve, oui, absolument.
Hein. C'est pas pour rien.
Et puis Minerve. Vous avez, je vous ai mis en bas une pièce romaine, où vous avez SC hein, pour Senatus Consulto, par décret du Sénat, et vous avez l'aigle romain qui tient le monde dans ses pattes. hein, la pièce du bas. Je suis désolé pour ceux qui ont une mauvaise copie. Hein. Donc, c'est bien cet imaginaire-là que le visionnaire d'Apocalypse 17 dénonce, hein, ou critique.
Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il anticipe de si longtemps à l'avance la destruction.
Oui. Alors ça, on pourrait y revenir, on pourrait aller voir des textes comme Ézéchiel 28 ou Ésaïe 14, qui finalement disent les empires, en fait, ils ont observé l'histoire des empires. Qu'est-ce qui se passe avec l'histoire des empires? C'est qu'ils grossissent, qu'ils grossissent, qu'ils grossissent, qu'ils grossissent, et puis à un moment, la bulle éclate ou la tour s'effondre. Vous voyez? Donc c'est une observation. Et du coup, ça lui permet de se dire, ça ne peut pas durer. Alors, évidemment, si on le juge comme un... Et c'est ce que ça veut dire, un prophète. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des dons extra-lucides, comme Madame Soleil, si tant est qu'elle en est? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est simplement un lecteur avisé et qui peut pronostiquer ou anticiper des choses, hein, je veux dire, ceux qui lisent il y a une bulle je sais pas quoi, hein, une bulle sur les une bulle boursière, c'est pas des prophètes. Ils savent très bien que quand on est dans une logique d'accumulation déséquilibrée, on sait pas quand ça va péter, mais ça va péter. Donc j'ai l'impression qu'il est plutôt visionnaire dans ce sens là c'est à dire qu'il lit son histoire et il a pas le nez dans le guidon en disant « Ah, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est merveilleux !»
Avec cette différence, c'est pas un universitaire, on n'a pas les moyens de communication de l'époque, c'est-à-dire quelle connaissance peut-il avoir de ce processus de grandeur de faute, s'écrouler, etc. Mais c'est quand même assez étonnant.
Alors c'est quelqu'un qui est en plein cœur, qui habite en Asie mineure, qui connaît au moins sept des grandes villes d'Asie mineure où se développe un culte impérial.
Il le voit à son échelle,
je pense. Et je pense que une vision de comment fonctionne l'empire, je veux dire d'abord c'est quelqu'un qui s'est un lettré, hein, au moins. Je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir une analyse politique. Alors il le dirait pas dans nos termes, hein, évidemment. Mais je pense que le fait que toutes les richesses convergent vers Rome, c'est un fait d'observation, tout simplement.
Il a quand même vu tomber l'empire de Cyrus, il a vu tomber l'empire égyptien comme en Rome, ça il l'a vécu en plus, bon. Oui. Donc il sait que les empires ne peuvent pas durer éternellement.
Il sait que les empires ne peuvent pas durer, et il sait que Babylone est tombée. Il sait que Ninive est tombée, hein, les Assyriens. En fait, l'histoire biblique, vétérotestamentaire, nous raconte l'histoire d'empire, que ce soit les Assyriens, les Babyloniens, puis les Perses, puis les Grecs. Même les Grecs sont tombés devant les Romains. Et donc, il se dit, les Romains tomberont devant quelqu'un d'autre, hein, on pourrait dire. Comment ? Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. De savoir suffisamment lire l'histoire passée et présente pour pouvoir en déduire ce qui va se passer, et ça ne retire rien du tout, au fait. Et c'est peut-être ça la bonne façon d'être visionnaire. Plutôt que
c'est pas tout à fait l'image du prophète de l'Ancien Testament.
Oui.
Celui dont vous parlez, visionnaire, là, ne correspond pas à l'image des prophètes que nous avons l'habitude.
Alors, détrompez-vous, vous irez lire la chute du roi de Tyr décrite en Ézéchiel 28. Vous irez voir, pas maintenant, hein. Vous irez lire Ézéchiel 28 et vous verrez la façon dont le prophète Ézéchiel prédit la chute du roi de Tyr qui lui régnait sur un empire commercial considérable puisque Tyr était la plaque tournante du commerce phéniciens en Méditerranée, et que c'était eux qui dominaient toute cette Méditerranée. Et vous verrez que vous avez une analyse qui ressemble curieusement à ce que nous allons lire maintenant, d'ailleurs. Et je vous suggère que nous tournions vers Apocalypse 18. Qui veut bien commencer à lire, hein, voyez, et puis on donne le à un lecteur à côté de vous. On commence souvent par ici parce qu'il y a des candidats par là, mais je voudrais pas. Est-ce qu'il y a des candidats à la lecture ? Allez-y, et puis comme ça on suivra à côté de vous. On vous écoute. Alors faut. Si on lit, il faut lire à voix haute. Alors on passe.
Après cela, je vis descendre du ciel un nouveau cadre de grand pouvoir. La terre fut illuminée de sa gloire. Il cria, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur, un repère de tout animal impur et détesté. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fleur de sa prostitution, parce que les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe.
Quelqu'un continue ?
J'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ses péchés. Et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses forfaits. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est complue dans la gloire et le luxe, autant deviez-lui de tourment et de deuil. Parce qu'elle se dit, je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, jamais je ne verrai le deuil. À cause de cela, en un seul jour, ces fléaux viendront, mort, deuil et famine, et elle sera jetée au feu, car il est fort, le Seigneur Dieu qui l'a jugée.
Quelqu'un continue ? Allez-y.
Tous les rois de la terre qui se sont prostitués et qui se sont conclus dans le luxe avec elle pleureront. Ils se lamenteront à son sujet quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant à distance par crainte de son tourment, ils diront quel malheur, quel malheur. La grande ville, Babylone, la ville forte. Et une seule heure est venue, en une seule heure est venue ton jugement. Alors là, il y a du vainqueur.
Laissez.
De même, les marchands de la terre pleurent et mènent deuil sur elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois, de senteur, de tout objet d'ivoire, de tout objet de bois précieux, de bronze, de fer et de marbre, cannelle, aromate, parfum, myrrhe, encens, vin, huile, fleurs de farine, blé, bœufs, moutons, chevaux, chars, corps et âme d'humains. Le fruit mûr que tu désirais s'en est allé loin de toi. Toutes ces choses délicates et splendides sont perdues pour toi et on ne les retrouvera plus jamais. Les marchands qui se sont enrichis grâce à elle se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et mèneront deuil en disant quel malheur, quel malheur. La grande ville, vêtue de lin fin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites.
Un autre lecteur, une autre lectrice, allez-y.
Tous les pilotes tous les caboteurs, les marins et tous les travailleurs de la mer sautèrent à distance. Ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Qui était semblable à la grande ville? Ils se jetaient de la poussière sur la tête, ils pleuraient, ils menaient deuil et criaient. Quel malheur, quel malheur! La grande ville, dont l'opulence a enrichi tous ceux qui ont des bateaux sur la mer, en une seule heure, elle est devenue un désert.
Sois en fête sur elle, ciel, vous aussi, saints, apôtres et prophètes, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta à la mer en disant « Avec la même violence de Babylone, la grande ville sera jetée à bas et on ne la retrouvera plus jamais. On n'entendra plus jamais chez toi les joueurs de lyre, les musiciens, les joueurs de flûte et de trompette. On ne trouvera plus jamais chez toi aucun artisan d'aucune sorte. On n'entendra plus jamais chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus jamais chez toi. On n'entendra plus jamais chez toi la voix du marié et de la mariée. Parce que tes marchands étaient les dignitaires de la terre, parce que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie. Chez elles, on a trouvé le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre.
Merci beaucoup. Quelle impression vous fait ce chapitre ?
La vengeance.
La vengeance, règlement de compte, oui.
La loi du talion.
Oui.
Vous parliez tout à l'heure d'une bulle qui éclate.
Oui.
Moi, ça me donne plutôt que de la vengeance, l'impression de ça.
Oui.
Un monde qu'on avait idéalisé, quand
oui.
On ne l'avait pas.
Oui, qui s'effondre. Qui s'effondre à petit feu ou bien non, qui s'effondre brutalement. Hein, ce qui est impressionnant, c'est que ça s'effondre d'un coup.
En une seule heure.
En une seule heure. Oui, c'est extrêmement rapide. Puis vous voyez que là, on a un document en or, ne serait-ce que pour les historiens. Parce que qu'est-ce qui est décrit en dehors de la chute de Babylone la Grande? Qu'est-ce qui est décrit comme activité des humains dans le détail?
Le
commerce international.
L'artisanat.
Pardon?
L'artisanat,
le commerce international.
La production agricole.
Mondialisé, oui, tout à fait. Alors vous voyez comment est organisé ce chapitre. Il y a d'abord des voix d'anges. Au début, et puis à la fin. Et puis, vous avez toute une série de descriptions de la chute. Vous avez une, deux, trois, quatre, peut-être cinq élégies funèbres, en particulier trois au milieu, vous voyez, à la fin du verset 10. Quel malheur, la grande ville, Babylone, la force. La forte. Et puis verset 16, quel malheur, etc. Puis verset 19, quel malheur. Ça vient un peu comme un. Donc vous avez beaucoup de place qui est consacrée à des lamentations funèbres. Hein, c'est vraiment dans le style littéraire des lamentations funèbres. Et puis à la fin, c'est un ange qui dit on n'entendra plus jamais, là on change un peu de tournure. Regardons qui sont les auteurs successifs des trois lamentations funèbres qui disent quel malheur ». La première, les premiers qui disent quel malheur », c'est tous les rois de la terre, ceux qui se sont prostitués et qui se sont complus dans le luxe avec la prostituée. Ouais.
C'est-à-dire tous ceux qui profitaient finalement du commerce avec...
Alors vous voyez qu'il y a d'abord les autorités politiques, les rois de la terre, et puis après il y a les marchands, les businessmen internationaux, les traders, et puis à la fin les ouvriers les marins, les caboteurs, hein. Vous avez l'échelon politique, l'échelon commerce international, et puis l'échelon de ceux qui sont les petites mains, enfin en tout cas les artisans de ce commerce international, les caboteurs, les marins, les travailleurs de la mer, etc. C'est intéressant ce cheminement, hein. Les politiques, le commerce international, puis ceux qui sont dans l'exécution, dans le transport maritime, oui, on va pouvoir dire ça comme ça, tout à fait. Oui, c'est intéressant. Vous voyez que les marchands sont assez souvent nommés, hein. Les marchands, vous les avez au verset, à la fin du verset 3. Au verset 11, les marchands, de nouveau au verset 15, et puis de nouveau au verset 23. C'est ceux qui sont les plus nommés, les marchands, hein.
Mais est-ce que ils sont les représentants de ce que la Bible a donné par ailleurs, Mammon, la puissance d'argent?
Alors ça, ils doivent en tout cas le manipuler, parce que vous voyez que la première explication qui nous est donnée à la chute de la grande prostituée, au verset 3, c'est quoi? Il y a une, deux, trois explications.
Ceux qui sont enrichis.
Alors, les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est-à-dire que l'enrichissement de la grande prostituée, donc hein, la prédation de l'ensemble des richesses de l'Empire romain vers Rome, ne fait pas que des malheureux. C'est-à-dire que ceux qui gèrent le commerce international, ils se sont enrichis et ils sont présentés comme une des causes, effectivement, de la chute. On va continuer avec ces marchands.
Mais c'est essentiellement du commerce de luxe.
Oui, on verra, parce qu'on a le listing de la cargaison. Mais ça, on s'y attachera au listing de la cargaison. Mais restons sur les marchands, mais vous avez raison que c'est du commerce de luxe. Ils ne vendent pas des cacahuètes. Hein. Oui. En tout cas, c'est du business à haute valeur ajoutée. Hein. La fois d'après où on en parle, c'est au verset 11. Quelqu'un veut bien relire le verset 11 ?
De même, les marchands de la terre pleurent et mènent deuil sur elle.
Parce qu'ils l'aiment ?
Non.
Parce que personne n'achète plus leur cargaison.
Exactement. Bon, on a bien vu, hein, que ce n'est pas parce qu'ils étaient amoureux d'elle. Hein. C'est juste parce que... Ils ne font plus leur business, évidemment. Vous voyez qu'au verset 15, les marchands qui se sont enrichis grâce à elle se tiendront à distance par crainte de son tournant. Bon, ils étaient là tant qu'il y avait du profit à faire, mais maintenant que ça s'effondre, ils sont à distance. On a déjà vu que, au départ, les marchands, verset 3, sont liés, on pourrait dire, il y a un package, hein. Il y a les nations, les rois et les marchands. Hein. On a trois fois. Parce que les nations ont bu du vin, parce que les rois de la terre se sont prostitués avec elles, parce que les marchands. Donc, on a l'ensemble des autorités. Il y a les autorités politiques, il y a les marchands, et puis il y a les populations.
J'avais pas compris comme ça la première ligne du verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Moi, je pensais que c'est parce qu'elles en avaient assez, justement, que cette prostitution furieuse leur pompe leur revenu.
Alors, moi, j'ai l'impression qu'ils se sont associés à l'ivresse de la prostituée. Mais il faudrait explorer votre compréhension. Parce que vous voyez que... Ouais, il faudrait explorer votre compréhension. Est-ce que c'est les nations qui sont en colère, là? Ou bien...
C'est ce que j'avais pensé. Bon, mais je me trompe peut-être.
Mais moi aussi, je me trompe peut-être. C'est tout à fait aussi possible. J'ai l'impression qu'avec ce parallélisme des trois phrases, à chaque fois, on a affaire à des coupables. Les nations, les rois, les marchands.
Au fond, chacun de ces trois éléments, ils ont tous bu du vin.
Exactement. Ils ont tous été dans la même combine. J'ai l'impression, mais je ne suis pas bien sûr. Vous voyez que ensuite, ceux qui se lamentent, les premiers qui se lamentent, on l'a vu au verset 9, ce sont les rois de la terre. Les deuxièmes qui se lamentent, et c'est le passage le plus long dans les versets 11 à 17, ce sont les marchands. On reviendra sur eux qui se sont enrichis. Et puis enfin, c'est plus court, versets 18-19, ce sont les marins, ceux à qui ce business donnait du travail quand même.
Ceux qui profitaient du dynamisme des marchands.
Vous savez, par le principe que quand les riches sont très riches, ça finit par couler jusqu'au plus bas. Enfin, ça ne va pas jusqu'aux esclaves, là, quand même. Hein. Bon. Alors, regardez qui est-ce qui reste de tous ces gens au verset 23. Verset 23b. Parce que tes marchands étaient les dignitaires de la terre. On est de nouveau dans un parce que. Hein. Il n'y a plus les nations et il n'y a plus le pouvoir politique. Alors les nations, elles ont été égarées par la sorcellerie, vous avez raison.
Elles sont passives quand même.
Elles sont passives parce qu'elles ont été égarées par la sorcellerie. Mais le politique a disparu, il n'y a plus les rois. C'est normal, il n'y a plus besoin de rois puisque c'est les marchands qui sont les dignitaires de la terre. Pardon ? Ah oui, vous reconnaissez les choses ? Non, non.
On est comme ça en ce moment.
Toute situation présentant des ressemblances serait absolument fortuite. C'est intéressant. Il a dans sa progression un effacement du politique. Et en fait, à la fin, le fin du fin, c'est que c'est les dignitaires de la terre sont les marchands. C'est étonnant, hein, Pardon ? Le politique s'est effacé parce qu'en fait c'est toute une affaire de business depuis le début. D'ailleurs, je trouve ça étonnant cette progression des élégies funèbres.
Hein. Tout ça, il n'y a que deux lignes pour ceux qui se réjouissent. C'est vite fait.
Alors, vous avez noté que. Alors peut-être on va encore voir, il y a un élément que j'aimerais vous faire repérer, c'est le fait que, comment est-ce que vous imaginez la scène ? Si vous aviez à représenter en tableau la scène qui est décrite là, c'est ces marchands avec leurs bateaux qui se tiennent à distance de l'embrasement de la ville. Mais ils se tiennent à distance, hein. Parce que la ville est en feu. Et en une seule heure, tout ça a disparu.
Et ils ont perdu toute leur marchandise.
Ouais. Alors, ce qu'il faut peut-être savoir là, c'est que à la fin du premier siècle, enfin, pendant tout le premier siècle, à la fin du premier siècle, le port principal de Rome qui accueillait toutes les n'était pas Ostie. Ostie a été dégagée plus tard. C'était Pouzole, par lequel d'ailleurs où l'apôtre Paul arrive. C'est-à-dire que quand on emmène l'apôtre Paul à Rome, on débarque à Pouzole et puis après on prend la via Appia pour monter à. Et donc il y avait à Pouzole des bateaux, des cargos de haute mer, ceux qui venaient de Chypre, d'Alexandrie, etc. qui soit déchargé à Pouzole pour que on continue par la route, par la via Appia, soit déchargé sur des plus petits bateaux qui cabotaient ensuite jusqu'à Ostie et qui eux pouvaient rentrer par l'embouchure du Tibre. Mais le Rotterdam, Le Rotterdam de l'époque, hein, ou le Shanghai de l'époque, c'était Pouzol. Alors c'est intéressant parce que Pouzol, c'est en baie de Naples. C'est au nord de la baie de Naples. Et puis alors, les gens de l'époque avaient été marqués par un événement. L'éruption du Vésuve en 79. Vous avez même des récits tout à fait intéressants de Pline le Jeune. Pline le Jeune qui veut aller chercher son... sauver son oncle Pline l'Ancien, qui est coincé sur, avec d'autres, à Herculanum, Pompéi, etc., sous la pluie de cendres. Et vous avez Pline le Jeune qui raconte comment les bateaux sont là et ne peuvent assister qu'un puissant à l'extinction totale de Naples. Je fais partie de ceux qui soutiennent, ou en tout cas qui promeuvent un petit peu la compréhension que l'imaginaire que le visionnaire du chapitre 18 a en tête, c'est quelque chose comme l'éruption du Vésuve à Naples, qui va, parce qu'il faut savoir qu'à Herculanum, Pompéi, etc., c'était là que se vivait, c'était un lieu de résidence secondaire pour les riches romains. Hein. Et il y avait les pentes du Vésuve qui donnaient un vin extrêmement, extrêmement réputé. Et on le voit bien quand on peut visiter Pompéi ou Herculanum, on voit que c'était pas des bas-fonds, hein. C'était des villas. Des villas extrêmement... Il me semble que l'imaginaire qu'a en arrière-plan le visionnaire qui écrit ça, c'est la fin. Et on l'a dans les versets 22. Hein. On n'entendra plus jamais chez toi les joueurs de lyre, les musiciens, etc. Plus jamais. Etc. On a l'impression qu'une chape de plomb est venue écraser cette Dolce Vita romaine, et que, en fait, tous ceux qui sont dans les élégies funèbres, ils sont à distance et ils assistent impuissants, ils se disent quel malheur, tout ce luxe englouti en une seule heure. Hein ? C'est une hypothèse. Si j'ai tort, ça ne change pas le sens du texte, mais j'ai vraiment l'impression que l'imaginaire que convoque, parce que ça, les gens en avaient entendu parler, hein. Ça avait fait du bruit dans l'Empire romain, toute la campagne napolitaine et ces lieux de villégiature pour la richesse, la noblesse romaine qui est d'un seul coup écrasée. Et on voit bien que la dimension de la mer apparaît, la dimension des marchands qui attendent, qui ne peuvent pas décharger, l'idée de la meule qui est jetée dans l'eau. Hein, il me semble qu'il est possible, en tout cas, que le visionnaire convoque cet imaginaire-là dans sa vision. Alors, certains l'ont noté, alors que tout le monde pleure, les rois, les marchands, les ouvriers de la mer, il y a un petit groupe à qui, alors non seulement ça fait plaisir, on y reviendra au verset 20, mais regardez déjà au verset 4, 5 et 6. À qui s'adresse l'ange? Pas le mon peuple. Il y a une voix qui vient du ciel et qui dit: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Hein? Et puis il y a tout cet aspect que vous avez identifié à de la vengeance, hein, payez-la comme elle a payé, etc. Et c'est les mêmes à qui on donne une consigne au verset 20. Soit en fait sur elle ciel, Vous aussi, saints, apôtres et prophètes, car Dieu a fait justice en la jugeant. J'avais fait un commentaire de ce texte intitulé « Gens qui rient, gens qui pleurent ». C'est-à-dire que la grande majorité de ceux qui tiraient profit de la grande prostituée pleurent et se lamentent. La question c'est, est-ce que les destinataires de l'Apocalypse sont appelés à se lamenter ? Non ! Ils sont appelés à se réjouir de ce qui arrive. Parce que eux ne faisaient pas partie des marchands ou de ceux qui étaient au bénéfice de la grande prostituée. Au contraire, ils étaient les victimes de ce système global. Ouais, j'entends des gens qui... Ça ressemble à des... Dites-le plus fort, madame, vous pouvez nous dire ? Si ! Dommage, ça ressemble à des... Mais vous voyez bien, en fait, on a... Alors, moi, ça me s'est arrivé que des gens disent « Ah, mais c'est terrible, ça !» c'est le World Trade Center, hein, voyez, c'est ceux qui se réjouissent de... Là, on n'est pas dans une revendication économique. En fait, il y a le christianisme qui résiste à la pensée de l'Empire. Il ne le fait pas sur le niveau économique, hein, mais il le fait sur le niveau d'avoir la possibilité, spirituellement, de suivre son chemin sans souscrire aux valeurs de l'Empire. Mais là il se trouve que ça prend une tournure économique. Alors, oui.
Ça m'a fait penser à la sortie d'Égypte du peuple d'Israël.
Oui, oui.
Les Hébreux.
On est sur le même modèle. L'armée de Pharaon est engloutie, oui. Sodome et Gomorre, oui. Oui. Oui, sors d'elle, oui, exactement. Sors d'elle, toi, mon peuple, ne te laisse pas associer à ces péchés. Autrement dit, il y a une invitation, non pas seulement à se mettre à l'abri, mais à être dans la dissidence, c'est-à-dire ne rentre pas dans sa combine. Parce que si jamais tu rentres dans sa combine, tu seras associé à ses fléaux. Donc c'est vraiment une dissidence presque géographique en disant « sors d'elle, toi, mon peuple hein. ». C'est-à-dire ce qui doit réjouir ou attrister le peuple auquel s'adresse, c'est pas les prolétaires, hein. C'est les chrétiens, c'est ceux qui suivent l'agneau.
Est-ce que ça exclut les autres juifs traditionnels ?
Alors moi je pense que ça s'adresse au petit groupe des chrétiens qui étaient en résistance spirituelle en Asie mineure là, pour leur signifier... Mais c'est la même logique que les lettres hein, du chapitre 2 et 3, qu'ils ne doivent en aucune façon avoir de compromission et de collaboration avec la logique de l'Empire. C'est ce qui leur est dit, en même temps avec une vision du fait que ce commerce international s'effondre. Hein. Or peut-être en percutant l'imaginaire du Vésuve. Parce que ce commerce international, regardez, et j'aimerais qu'on termine par là, peut-être qu'on pourra reprendre parce que c'est un chapitre tellement riche. Regardez comment est structurée la cargaison type au verset 12 des bateaux. Regardez qu'est-ce qui permet de donner une logique à la succession étalé sur 5 lignes de toutes ces denrées, sur 4 lignes.
C'est la richesse de Rome qui ne fait rien, mais qui encaisse et qui commence par aimer l'or et l'argent.
Oui, alors regardez comment est-ce qu'on commence. Il y a d'abord l'or et l'argent. Les pierres précieuses, les perles. Si on s'arrête là, c'est quoi ? L'or et l'argent, les pierres précieuses, les perles.
Les rois.
C'est ce qu'on coûte vraiment très très cher. Hein, c'est
plus cher.
C'est les trésors, c'est la place Vendôme, c'est ce qu'il y a de plus cher. Alors après, on va passer à un autre type de produit, le lin fin, le pourpre, la soie et l'écarlate.
C'est déjà manufacturé,
c'est des produits de luxe. Des produits de luxe. Et puis on descend, les bois de senteur, les objets d'ivoire, les objets précieux de bronze, de fer et de marbre.
C'est la décoration.
C'est la déco, mais on commence à être dans les bâtiments, dans les éléments de construction. Attention, c'est pas du torchis, hein, c'est les éléments de construction qui ont quand même une certaine valeur. Puis alors après, vous avez la série cannelle, aromate, parfum, myrrhe, encens.
5 de Chanel.
5 de Chanel, les épices d'Orient, et puis alors ensuite vous avez vin, huile, fleurs de farine et blé.
La gastronomie.
Bah de quoi manger. Attention, c'est quand même pas n'importe quelle farine. Hein. Même la fleur de farine, mais.
Il y a du blé aussi.
Mais on commence à être dans des produits plus courants. Ensuite, les bœufs, les moutons, les chevaux, les chars. Alors les bœufs, les moutons, les bestiaux. Les chars, c'est l'industrie automobile, hein, les chevaux, va.
Et puis les esclaves.
Et corps et âme d'humain.
Ah ouais.
Les esclaves. Les esclaves qui sont à fond de cale. Hein. Et puis vous voyez bien qu'on a un décrescendo sur la valeur des produits transportés. C'est-à-dire que les produits qui ont le moins de valeur,
c'est les hommes.
Et pourquoi est-ce qu'au lieu de dire les hommes, il dit corps et âme d'humain ? C'est intéressant.
Parce qu'il est transformé
en objet. Peut-être bien qu'il ne vise pas seulement les esclaves, mais également ceux qui sont complices de ce genre de,
ouais,
de travail et qui sont donc eux aussi viciés et compromis dans.
Ouais, on pourrait dire ça.
Non, c'est rentré bien le vin, l'huile, la fleur de farine, la fleur de blé.
Ouais.
On ne peut pas dire qu'ils étaient compromis.
Non, voilà, exactement. Ouais. Moi, je pense que c'est plutôt les esclaves, mais que l'auteur, au lieu de nommer simplement esclave ou homme, leur redonne de la dignité en rappelant que ce qui est dans la logique de l'Empire, au bas de l'échelle des valeurs, c'est en fait des humains corps et âme, c'est-à-dire que quelque part il ne peut pas lui les nommer comme simples marchandises, mais en même temps on a probablement une lecture critique de cette cargaison, vous voyez ce que je veux dire, ça vient la critiquer en redonnant de la valeur, parce qu'il aurait très bien pu dire hein, Andros ou Anthropos ou à la fin, dire et des hommes, hein, ou des humains. Non, il dit corps et âme d'humain. C'est-à-dire que d'un seul coup, il fait un zoom sur eux pour dire, en fait, ce que l'Empire met en bas de son échelle de valeur a en fait de l'importance pour moi. Plus que, effectivement, vous avez raison, que la compromission, parce que c'est pas mal de transporter du blé et de la farine, hein, mais on voit bien que ça fait partie d'un commerce plus global. Pardon ?
Ça fait un peu grec-coréen.
Ça fait un peu grec-coréen. Ouais. Mais en tout cas, ça met l'emphase. Ça met l'emphase sur ce dernier produit, hein, sur cette dernière marchandise. Peut-être pour... Alors là, c'est peut-être de la surinterprétation. Moi, je dirais peut-être pour signaler que ce n'est pas une marchandise comme les autres.
Oui, parce que ça n'a rien à voir avec les produits.
Bah oui.
C'est d'abord cité.
Oui, exactement.
Ils pourraient les mettre avant les bœufs et les moutons.
C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'ils sont vraiment à fond de cale. Oui. Pardon ?
On va du plus cher au moins cher.
On va du plus cher au moins cher, exactement. Donc, ce qui est contesté aussi peut-être là, c'est l'échelle de valeur de l'Empire. Hein? Et le fait qu'il y ait une certaine réjouissance à ce que tout cela s'effondre. Même si vous voyez bien qu'on est à la fois dans l'effondrement réalisé, mais en même temps à venir, puisque vous voyez que au verset 21, avec la même violence, Babylone la grande sera jetée à bas. C'est-à-dire que le visionnaire n'est pas naïf. Il sait qu'il est en train d'annoncer un effondrement, mais à l'époque où il écrit, Rome est pas à son apogée, mais en tout cas est pas mal haut. Et on sait par l'histoire qu'il faudra attendre plusieurs siècles avant la chute de Rome.
Jusqu'à nous, enfin,
pourquoi ?
Au XXe siècle, parce que la révolution russe qui a changé aussi certaines choses, mais les auteurs du XIXe siècle parlaient encore des âmes. Certains propriétaires possédaient des biens.
Oui.
Oui,
alors on pourrait disserter sur l'utilisation du mot âme, qu'il ne faut peut-être pas toujours presser. Mais vous voyez que là il est 16h02, donc je ne vais pas vous emmener trop loin, mais on pourrait revenir, peut-être, je trouve que ça vaudrait le coup de ramener votre feuille, puis on repassera du temps, mais je trouve que on a dans le chapitre 18, on voit bien que le visionnaire en question, il n'est pas hors sol, hein, il n'est pas dans des élucubrations de la fin des temps, il est dans une lecture assez fine de la réalité de l'Empire, et pour lui, les chrétiens ont à se positionner vis-à-vis de cette réalité de l'Empire. Alors pour ce qu'ils en ont fait après on pourrait dire pour ce qu'on en a fait nous aujourd'hui, mais je vous propose de reprendre ça parce que c'est un petit peu bête de s'arrêter juste là comme ça, mais c'est l'heure. Donc je vous propose de ramener votre chapitre 18 la prochaine fois, et puis on en reparlera pour affiner. Merci à tous. Alors la prochaine fois, c'est le 18 avril. Et on pourra prendre le temps de revenir sur le chapitre 18.